Covid-19, que sont nos campagnes devenues? Un débat proposé par l'agence Alter et Bruxelles nous appartient.
Une campagne carte postale. C'est parfois l'image qu'on a du monde rural. De jolis paysages sculptés par l'activité agricole et la nature, tenus à l'écart de l'actualité et de ses enjeux trépidants. Des lieux où il ne se passe finalement pas grand-chose. Pourtant, d'importantes transformations foisonnent en zone rurale ces dernières années. Des mutations environnementales notamment, mais aussi sociales, démographiques, économiques, voire politiques. La crise du Covid n'a évidemment pas épargné le monde rural et a eu un effet parfois amplificateur sur ces évolutions. C'est à ces mutations, visibles et invisibles, qu'Alter Echo a décidé de consacrer son numéro de juillet, qui vient de sortir, afin de voir dans quelle mesure elle modifie petit à petit l'ADN du monde rural. Comme chaque mois, nous vous proposons de prolonger ce dossier par un débat. Ce débat se déroule aujourd'hui au Mundoen, à Namur. Bienvenue donc à ceux qui sont avec nous et à ceux aussi qui nous suivent en direct sur Radio Panique. Alors, pour parler ruralité avec nous cet après-midi, il y a Julie Van Damme, chargée de mission ruralité à Inter-Environnement Wallonie. Nous sommes également avec Xavier Delmont, coordinateur de la cellule d'animation du réseau Wallon de développement rural. Bonjour à tous les deux, merci pour votre présence aujourd'hui.
Bonjour.
Julie Van Damme, je me tourne d'abord vers vous avec une première question pour planter le décor en quelque sorte. Quelles sont selon vous les principales évolutions que connaît le monde rural ces dernières années et leurs impacts en termes environnementaux notamment ?
Pour commencer, je voudrais vous parler de mon expérience en milieu rural la semaine dernière, parce qu'en fait, je suis habitante d'un milieu rural, un vrai milieu rural, parce que j'ai découvert qu'il y avait une diversité et un gradient de milieu rural en Wallonie. Et maintenant que j'habite dans une vraie commune rurale, je comprends ce que voulait me dire mon mari. Quand il me disait « tu viens de Thouin, ça c'est dans le Hainaut, mais en fait t'es une citadine ». Donc voilà, je voudrais vous partager cette journée un peu type depuis quelques mois maintenant que j'ai vécu la semaine dernière. Ça se situe, j'habite dans le village de Pont-de-Rome, qui est à quelques minutes de la ville de Beaurain. Donc c'est une commune rurale du sud de la province de Namur. Et donc jeudi dernier, après avoir déposé mon fils à la crèche du village, j'ai quitté Pont-de-Rome pour rejoindre en fait l'espace de coworking de la Calestienne. Donc la Calestienne, c'est un CISP, un centre d'insertion socio-professionnelle, qui est construit sur un ancien site industriel. Pour travailler la matinée dans un lieu en fait serein et stimulant à la fois. Et puis à midi, je n'ai eu qu'à descendre l'étage pour aller dîner à la brasserie du pôle borinois de formation et de développement pour y savourer un plat du jour à moins de 10 euros le lunch, très succulent. Et puis après une après-midi productive, je me suis arrêtée vers 17h. Bon oui, ça c'est vrai, c'est une des contraintes en milieu rural. Si on veut faire ses courses dans les petites épiceries locales, il n'y a pas des heures d'ouverture étendues comme dans la ville. Donc à 17h, je me suis arrêtée, j'ai dû faire mes courses au magasin Oxfam et au comptoir paysan, le magasin coopératif de producteurs bio et locaux qui a ouvert récemment. Et pour finalement rejoindre ma maison en bois presque passif. Bon, alors, j'y étais en voiture, certes, c'est vrai que j'aurais pu le faire à vélo. Bon, électrique aussi, vu la déclivité de la colline pour rejoindre Pont-de-Rome. Mais tout ça pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, en milieu rural, comme vous le disiez dans l'introduction, il y a de la vie, il y a des initiatives pour plus de durabilité et de l'emploi potentiel en fait. Et donc finalement aussi de la place pour une diversité de modes de vie. Bon, ce qu'il faut reconnaître aussi par rapport à cette dynamique positive, c'est que ce n'est pas forcément le cas partout dans les campagnes wallonnes. Une première tendance qu'on peut tous voir, ce sont les maisons, voire les quartiers résidentiels qui poussent comme des champignons de prairie, j'ai envie de dire. Parce que les maisons quatre façades, à commencer par la mienne, c'est souvent au détriment de prairies, donc des ressources productives pour notre alimentation. Et lorsqu'elle est bien gérée, aussi une prairie utile pour la biodiversité. Donc voilà, donc ça c'est une première tendance et qui est en fait symptomatique d'un phénomène qu'on appelle chez Inter-Environnement et plus largement dans l'aménagement du territoire, un phénomène de rurbanité. Et donc des maisons dortoirs où en soirée sont garés des gros véhicules, souvent de type SUV, pour rejoindre les villes, la capitale ou même le Grand-Duché du Luxembourg. On a plusieurs villages caricaturaux comme ça le long de l'axe de l'E411. Puis il y a aussi ces villages secondes résidences où voilà, il y a beaucoup de c'est un peu fantôme pendant la semaine. On voit aussi des gîtes qui sont là. Et puis de plus en plus de piscines de tout type qui sont de plus en plus accessibles. Et ça non plus, c'est pas génial pour nos ressources environnementales eau. Donc voilà, il y a un peu comme un paradoxe entre cette envie d'espace, de vert, de nature finalement, et donc des personnes qui restent ou qui s'installent en campagne. Une envie de vert, mais aussi une envie de vert tout en profitant de cette nature avec une optique de maîtrise de cette nature proche de chez soi. L'exemple un peu caricatural des robots tondeuses en étain qui sont un peu une catastrophe pour les hérissons, par exemple. Donc voilà, des comportements avec d'autres, bien sûr, qui font que l'on risque de ne plus pouvoir profiter longtemps de cette nature rurale. Et alors, un dernier élément, si c'est possible, c'est lié à ce que moi, je vois depuis un an en tant que chargée de mission ruralité, des interpellations qu'on reçoit à la Fédération. C'est une intensification, et c'est le cas de le dire, de construction de bâtiments pour l'élevage de poulaillers en filière intégrée. C'est vraiment des grosses demandes, et ça crée... de gros débats en campagne et donc voilà, des bâtiments où plusieurs milliers de poulets en filière intégrée peuvent s'installer, que ce soit en conventionnel ou en bio. Donc c'est aussi une tendance qu'on observe. Mmh.
Donc des tensions notamment démographiques dont on va parler un peu plus longuement par la suite. Xavier Delmont, même question. Comment a évolué le milieu rural ces dernières années? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'important selon vous?
Julie a déjà dit beaucoup de choses, hein, donc ça va être plus difficile d'intervenir après. Mais c'est vrai que l'attractivité des territoires ruraux depuis longtemps fait que ça génère énormément d'effets pervers, ou en tout cas d'effets négatifs pour ces territoires qui sont extrêmement riches en biodiversité, en paysages, etc. Donc c'est vrai que ces pertes de biodiversité, cette artificialisation des sols a tout un tas de conséquences qui sont aujourd'hui d'ailleurs... Dès qu'il y a des phénomènes de pluie intensive, on voit les traductions. C'est aussi une mobilité quotidienne qui est extrêmement importante et préjudiciable, je pense, au climat. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Mais c'est aussi à les territoires ruraux, c'est aujourd'hui des territoires, comme on l'a dit, qui sont vivants. C'est des territoires qui accueillent des nouvelles populations. Si par le passé, effectivement, les agriculteurs ou les ruraux étaient majoritaires, aujourd'hui, on ne peut plus faire de distinction entre ruraux et néo-ruraux. Les néo-ruraux, ça fait 30 ans qu'ils sont en ruralité. Donc aujourd'hui, c'est des ruraux à proprement parler qui sont préoccupés par un certain nombre de choses, comme effectivement le devenir de la biodiversité dans laquelle ils vivent. C'est aussi une population qui vieillit. Mais qui vieillit à la fois les natifs et les nouveaux arrivants. Donc ça veut dire que c'est des nouveaux besoins, c'est des nouveaux services qui doivent être offerts à ces populations. C'est toute une et c'est des nouveaux, c'est des retraités. De jeunes retraités qui ont énormément de capacités, de compétences et qui sont prêts à les mettre à disposition du développement des territoires ruraux. C'est une population qui a un mode de vie urbain. Ne l'oublions pas, aujourd'hui, tous ces gens, et même vous, nous, enfin, énormément de gens, on consomme de manière urbaine, que ce soit les aliments, la culture, extrêmement... Donc on a des référents qui sont terriblement urbains, mais appliqués à un milieu de vie qui reste encore profondément différent, avec son patrimoine, avec ses ressources, qu'il faut pouvoir gérer de manière... gérer ça de manière dynamique. C'est aussi, je pense, c'est vrai que lors de la crise Covid, on a vu un engouement de nouveau extrêmement important pour les territoires ruraux. Les gens qui fuyaient la ville voulaient acheter des résidences secondaires ou voulaient s'échapper d'un milieu plus confiné. Donc ça génère de nouveau des effets pervers extrêmement importants. Aujourd'hui, les jeunes ruraux, même issus des populations qui sont arrivées il y a 30 ans, ne peuvent plus s'installer. Et donc, se pose réellement la question de savoir quelles sont les politiques qui doivent être mises en place pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces populations, mais de nouveau, avec des diversités, je terminerai là-dessus, avec des diversités, comme l'a dit Julie, qui sont extrêmement importantes, parce que l'on soit dans la botte du Hainaut, que l'on soit dans l'est du Brabant wallon, ou que l'on soit en province du Luxembourg, à proximité du Grand-Duché, on ne vit pas les mêmes réalités, mais on est dans des contextes où il s'agit d'être attentif à ce qui nous arrive ou ce qui nous arrivera dans les prochaines années. Mmh.
Vous avez parlé d'une urbanisation des modes de vie en milieu rural. Celle-ci a notamment eu des impacts sur l'activité agricole, le monde de l'agriculture. Et pour poursuivre sur le sujet, je vous propose d'écouter la présidente de la FOA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, Marianne Streel, qui témoigne justement de cette évolution du monde agricole et de la perte de liens au fil des ans entre les agriculteurs et les nouveaux habitants des campagnes.
Chez mes grands-parents, toute la vie du village et de la ruralité se faisait autour des exploitations. Mes grands-parents avaient une exploitation agricole, beaucoup de travail qui se faisait manuellement. Du coup, toute la vie du village tournait autour des exploitations qui avaient besoin de main-d'œuvre. On avait aussi à ce moment-là, dans presque toutes les familles, une vache, un cochon, des poules, un potager. Et donc, il y avait aussi à côté de cette agriculture qui était une agriculture qui fournissait de l'alimentation en grand nombre, des exploitations familiales qui étaient de la subsistance familiale. Et puis, on est passé quand même à des créations de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs avec l'apparition du tertiaire et puis aussi l'évolution au niveau de l'éducation des enfants qui... avant qu'il y ait des obligations scolaires plus longues, comme on peut les avoir aujourd'hui, très souvent, pour permettre à la famille d'avoir un revenu supplémentaire, travaillaient et rejoignaient vite leurs parents sur les exploitations agricoles. Et donc, on créait du lien. Et puis, la vie a évolué avec, en parallèle au niveau agricole, la mécanisation qui est arrivée aussi. Et donc, un besoin moindre de main-d'œuvre, des nouveaux métiers, des enfants, y compris dans le milieu agricole, qui avait des études plus longues. Et donc, la société globale a changé. Et nous avons donc eu une agriculture qui a évolué au fur et à mesure des changements sociétaux. On a aussi vu l'apparition en parallèle à tout ça dans les années 60 de tout ce qui était grande surface et donc changement de commercialisation des produits alimentaires. Au lieu d'avoir des petites structures, soit à la ferme où on venait chercher son beurre, son lait avec une cruche ou l'épicerie du coin, ben on a vu l'apparition des grandes surfaces, d'abord alimentaires et des grandes surfaces également multiproduits. Avec l'émerveillement dans les années 60, des grands bazars où on trouvait de tout en masse, en qualité différente aussi, donc une variabilité de choix. Puis sont arrivés aussi les produits du reste du monde, etc. Et dans nos exploitations agricoles, mais celles qui faisaient du beurre ont vu leurs consommateurs diminuer. Et puis... l'AFSCA et toutes les normes sanitaires et tous les investissements nécessaires et assez lourds par rapport à cette diminution de consommation à la ferme a fait aussi disparaître le nombre d'agricultrices et d'agriculteurs qui transformaient à la ferme. Et donc, tout ça a fait qu'on a quitté un petit peu aussi cette diversification à la ferme, mais surtout le lien qu'on créait avec les gens qui habitaient autour de l'exploitation. Et donc, on a vu apparaître depuis 15-20 ans de nouveau de la diversification à la ferme. D'abord touristique, accueil à la ferme, ferme pédagogique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une obligation de recréer du lien avec le monde non agricole. Et c'était vers cette voie-là aussi, l'accueil à la ferme et le tourisme et le loisir, qu'on s'est dit, on va essayer de recréer du lien qui est quelque chose... pour moi, qui est vraiment important, parce que l'acceptation de notre travail, de nos pratiques, des bruits, des odeurs, de la façon dont on fait les choses, du rappel de la saisonnalité des choses aussi, tout ça ne peut se faire qu'en les expliquant et en recréant du lien. Et puis, autre chose pendant le Covid, c'est qu'on a vu quand même aussi un grand retour vers la nature. Donc, au niveau alimentaire, mais également au niveau comportement, il y a eu ce grand retour. Et là, on voit que la tendance, quand on travaille dans le champ, est bien restée. On en a perdu puisque les gens retravaillent. Mais par contre, on voit quand même, jusqu'ici, le début des vacances, où on voit quand même moins de monde, que les gens ont continué à garder ce besoin de rester dans la nature. Et là, on a eu quelques petits couacs aussi, c'est-à-dire non seulement quand nous travaillons avec nos matériels agricoles et le fameux pulvérisateur, même s'il contenait de l'engrais et pas des produits phyto, des gens avec lesquels on avait parfois des difficultés parce qu'ils considéraient que ces pratiques ne pouvaient pas se faire et que le territoire, entre guillemets, leur appartenait. On a eu aussi des soucis concernant l'espace à partager entre les promeneurs, les voitures, les quads et le respect de la production agricole. Et donc, on a dû beaucoup, beaucoup réexpliquer. On a même dû faire des bâches pour réexpliquer qu'on ne marchait pas sur son alimentation. Donc, on a vécu des choses un petit peu rigolotes et dû à vraiment cette perte de lien entre celui qui n'est pas agriculteur et la compréhension aujourd'hui de nos productions et de nos pratiques agricoles. Mmh. En disant aussi que, ben, au niveau des agriculteurs, le souhait est vraiment d'essayer de préserver les opportunités que cette crise nous a offertes, puisque toute crise a également des opportunités, que c'est un travail que nous devons absolument fournir aujourd'hui, c'est garder ces petites avancées pour qu'elles soient durables. Et puis, vraiment, comme grand, grand mot, c'est créer du lien, communiquer, expliquer notre boulot et expliquer comment on travaille, pourquoi on fait les choses et rassurer le consommateur.
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille, et battons la campagne. Allons à la campagne.
On l'a compris, le monde rural évolue. Et le Covid a joué un rôle d'accélérateur de certaines de ces évolutions. Au niveau démographique, par exemple, la crise semble avoir renforcé la dynamique d'exode urbain d'une frange de la population. À ce stade, ce ne sont encore que des observations, mais les confinements et l'essor du télétravail auraient convaincu davantage de citadins de se mettre au vert en achetant ou louant une maison à la campagne. C'est d'ailleurs confirmé par les chiffres du dernier baromètre des notaires. En 2020, seules les provinces wallonnes et en majorité rurales de Liège, de Namur et du Luxembourg ont vu leur activité immobilière augmenter par rapport à 2019, de 3% en moyenne, alors que Bruxelles et le Brabant wallon ont de leur côté enregistré une chute de l'activité immobilière de 5 et de 8%. Mais la crise sanitaire a aussi eu quelques effets positifs inattendus. Elle a notamment renforcé le succès des circuits courts. À titre d'exemple, la coopérative Paysan Artisan a vu tripler son nombre de clients sur son site en avril 2020, passant de 450 à 1380. C'est loin d'être la seule coopérative de producteurs et de consommateurs dans ce cas, même si le déconfinement a fini par mettre du plomb dans l'aile de cette dynamique. À propos de l'évolution des habitudes et des préoccupations citoyennes en milieu rural, on va maintenant écouter l'intervention de Corinne Biloué, directrice de la Fondation Rurale de Wallonie, fondation qui a mené une vaste enquête lors du premier confinement auprès de plus de 2000 citoyens issus de 174 communes rurales et qui les a interrogés sur les défis post-Covid.
Alors, quels sont les constats et les défis qui ont été identifiés? Eh bien, la première chose, c'est vraiment un élément de solidarité. 8 répondants sur 10 ont estimé que les gestes, initiatives de solidarité mis en place durant le confinement, c'était vraiment des choses qui devraient être pérennisées, notamment l'aide aux seniors et aux personnes précarisées. Autre chose qui a été vraiment relevée dans cette enquête, c'est le changement par rapport aux habitudes d'achat alimentaire. Donc 60% des répondants ont déclaré avoir vraiment changé leur habitude d'achat alimentaire par rapport au circuit court, au commerce de proximité. Donc pour ceci, 8 sur 10 ont dit qu'ils étaient prêts à maintenir ce changement. Donc vraiment, c'est encore un enjeu, c'est de maintenir cette dynamique qui s'est mise en place par rapport au circuit court. Ensuite, on dira aussi que pendant le confinement a été propice aux habitants de découvrir ou de redécouvrir leur territoire à pied, à vélo, et ça a provoqué un véritable engouement pour la mobilité douce ou mobilité active, hein, parce que le vocabulaire est en train de changer. Donc, l'enjeu de la poursuite de la pratique de cette nouvelle mobilité qui a vraiment été mise en avant, mais passe pour eux quand même là par des enjeux d'aménagement de voirie, de pistes cyclables. Cette découverte et redécouverte du territoire a permis également de mettre en avant une volonté du citoyen de préserver leur environnement. Ils l'ont redécouvert qu'ils avaient un environnement et une nature de qualité. Et donc vraiment, 65% des habitants qui ont répondu à cette enquête désirent vraiment s'investir dorénavant dans l'entretien, la préservation des espaces publics, des espaces verts, des balades, etc. Alors il y a aussi cet attrait des urbains pour les campagnes suite à ces périodes de confinement qui... Cet attrait existait déjà avant, mais qui semble renforcé par la crise sanitaire. Mais il faut voir aussi si cette tendance va être confirmée à long terme. Donc, on sent bien une pression aussi sur le prix du logement. Ben, de nouveau, ce qui est un phénomène qui existe déjà avant la crise sanitaire, que des jeunes ne peuvent plus rester dans leur village parce qu'il y a une pression immobilière. Le prix de l'habitat a tellement augmenté que les jeunes ne peuvent plus se permettre d'habiter chez eux et qu'ils sont obligés d'aller chercher du logement ailleurs. Alors, il y a aussi toute la crainte quand même de la cohabitation harmonieuse. C'est clair qu'il y a quelque chose que, voilà, le milieu rural n'est pas un beau jardin pour venir y dormir. Le milieu rural est un lieu où on vit, où on a des loisirs et où on travaille. Et donc, il faut aussi que le fait que les personnes veulent venir, que ce soit en résidence principale et ou en résidence secondaire, mais qu'ils acceptent aussi qu'on vit à un rythme en milieu rural différent, quoi. Et parfois, on est assez surpris à quel point certaines personnes peuvent être dérangées par certains bruits de tracteurs en milieu rural, alors qu'il y a le tram qui passe dans leur rue, là où ils habitent en milieu urbain. Alors, quels sont les besoins des communes rurales? Il y a vraiment une particularité, c'est la pluralité de la ruralité wallonne. C'est vraiment, en effet, la ruralité de Vresse-sur-Semois est bien différente de celle de Pec, de Vielsalm ou bien encore de Beauvechain. On a vraiment des territoires ruraux qui constituent une diversité d'espaces de vie, d'activités et de développement. Ce sont vraiment, donc comme je l'ai dit, et je réinsiste, vraiment des espaces où on vit, où l'on travaille, où on se déplace, où on se cultive, où on grandit, où on vieillit et aussi où on expérimente. Donc il faut être vraiment conscient de cette diversité et que c'est un territoire dans lequel on vit. Alors, ces milieux de vie sont variables, donc dès lors, les besoins, les enjeux identifiés devront aussi parfois être activés différemment d'un endroit à l'autre. Et c'est un peu la spécificité des opérations de développement rural qu'on mène dans ces communes, c'est-à-dire qu'on établit vraiment une stratégie sur base d'un diagnostic partagé et on va essayer vraiment de déterminer à chaque fois des objectifs spécifiques à chaque commune rurale par rapport aux forces et aux faiblesses identifiées qui sont particulières à chaque commune rurale. Donc, on va remarquer qu'une commune, dans un contexte, va essayer de se dire que son développement passe par le tourisme. Une autre, c'est une économie différente. Une autre va mettre l'accent sur le vivre ensemble. Donc, c'est vraiment important de dire ça. Maintenant, il y a aussi des enjeux, des défis qui sont transversaux et qui dépassent vraiment cette diversité de nos territoires ruraux. Alors, c'est évidemment l'accès aux services privés et publics de proximité. Il y a l'accès au numérique. On parlait tout à l'heure, je le disais dans l'enquête, on a parlé des lieux de rencontres physiques, mais on a découvert aussi les lieux de rencontres virtuelles, les espaces de coworking qui peuvent se développer aussi en milieu rural et permettre à des personnes de faire moins de route pour aller travailler, etc. Et puis, il y a vraiment quelque chose que nous, on défend, parce que nous, Fondation Rurale Wallonie, on fait de la participation citoyenne depuis 40 ans, et pas parce que c'est à la mode, mais on croit vraiment la mobilisation citoyenne, et la mobilisation citoyenne dans les territoires ruraux a déjà fait ses preuves. Donc vraiment, dans cet ordre d'idées, il faut pouvoir consulter les citoyens et les faire participer pour porter tous ensemble les projets importants pour le milieu rural.
Je rêve toujours de m'étirer, me barrer, me tailler de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. D'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai tinter l'hiver tout comme l'été, la nuit, le jour sur la campagne me donnerait envie de ne plus changer ma vie.
Xavier Delmont, en 2014, le réseau wallon de développement rural a réalisé un travail prospectif intitulé « Les territoires ruraux wallons à l'horizon 2040 ». Est-ce que vous rejoignez le constat et les conclusions de Corinne Biloué qu'on vient d'entendre ? Quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui dessineront l'avenir du monde rural ?
Il y a d'abord, je vais revenir sur les enjeux un petit peu après, mais effectivement, lors de cet exercice prospectif, on avait essayé d'identifier ou de caractériser quatre scénarios contrastés. Et l'un d'entre eux était le scénario tendanciel qui était de dire que demain, à l'horizon 2040, malheureusement, nos territoires allaient être absorbés, enfin les territoires ruraux allaient être absorbés, qu'on allait être dans une sub-urbanisation. Alors malheureusement, je pense qu'on va de plus en plus dans cette direction-là. Alors la crise Covid a peut-être inversé certains éléments, a peut-être mis des points d'inflexion, mais on est quand même dans cette logique-là. Alors j'entends bien aujourd'hui que les ruraux expriment un certain nombre d'envies ou un certain nombre de préoccupations, mais quand on voit le mode de vie auquel je faisais référence, malheureusement, je pense qu'on est toujours un petit peu dans la même tendance. Alors, pour moi, je vais d'abord, en termes d'enjeux par rapport aux territoires ruraux, je vais remettre quand même les choses à un niveau plus global. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une crise climatique et que les territoires ruraux, comme les territoires urbains, doivent se positionner de manière extrêmement ferme par rapport à ces enjeux-là. Donc, on doit changer de modèle, on doit changer de société. Si on continue, comme je l'ai dit, selon la tendance actuelle, je pense qu'on n'arrivera pas à gérer ça. On aura des problèmes extrêmement importants. Donc, on doit gérer, notamment au niveau des territoires ruraux, on doit gérer la transition énergétique. On doit, et dans ce contexte-là, les territoires ruraux ont un rôle essentiel à jouer. On doit aussi gérer l'enjeu de biodiversité. De nouveau, les territoires ruraux sont le lieu ou les lieux où, effectivement, la biodiversité, les ressources en eau, les ressources en sol, la captation de carbone, enfin, je m'y fais un grand tout avec ça, mais c'est les territoires ruraux qui sont une partie de la réponse. Pas seuls, en coordination avec les territoires urbains. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu le plus global, c'est comment demain les territoires ruraux se positionnent par rapport à cet enjeu de changement climatique. Alors après, si on descend un petit peu, ben effectivement, il y a lieu d'aller vers quelque chose qui doit être de l'ordre de la sobriété dans l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit dans le sous-sol ou au niveau du sol. On a des enjeux en termes de transport et de mobilité. On l'a dit aujourd'hui, effectivement, les ruraux continuent à se déplacer beaucoup trop avec la voiture. Donc, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, encore un autre enjeu. Tout ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, effectivement, les citoyens font un lien maintenant très fort entre la qualité de leur alimentation et le mode de production de cette alimentation. Aussi, sur les questions du lien avec les producteurs et des circuits de commercialisation. Et donc, là aussi, on est face à des enjeux qui doivent être traduit par des reconfigurations des territoires ruraux vers quelque chose que l'on peut appeler des territoires alimentaires où chacun, du producteur au consommateur, va retrouver quelque part des liens et va retrouver une sérénité par rapport à ces aspects-là. En termes d'infrastructures, j'ai entendu qu'il y avait effectivement des modes, on a découvert la possibilité de travailler à distance. Encore faudrait-il que les investissements en infrastructures soient là. En termes de haut débit pour le moment, désolé, mais on n'est pas encore au niveau wallon. Et ce n'est pas moi qui fais le constat, c'est les experts qui font le constat. En matière d'économie et d'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, la population vieillit, ou en tout cas une partie de la population vieillit, il y a des emplois résidentiels qui doivent être créés. Et donc, ceci, eh bien, il faut les accompagner dans leur, dans la création, dans leur création. En termes de logement, si on continue dans la même tendance, c'est-à-dire favoriser en, malgré tout l'installation de ceux qui ont les moyens de s'installer en milieu rural, ça veut dire qu'une partie de la population est exclue. N'oublions pas qu'en territoire, en milieu rural, il y a des parcs résidentiels, il y a de la pauvreté, il y a énormément de gens qui vivent cachés. Et donc, l'enjeu des logements publics est fondamental pour la Wallonie. Ça aussi, c'est encore un enjeu à relever. Et de manière plus globale, on parle de citoyens, on parle de participation citoyenne. Tout ça passe par une gouvernance globale des territoires ruraux où chacun doit se faire confiance, chacun doit accepter de dialoguer, chacun doit accepter de s'écouter. Et je pense que les politiques comme les citoyens doivent encore développer des modes qui, pour le moment, restent en devenir.
Donc on a entendu Corinne Biloué parler des enjeux d'accès aux services, de mobilité, de participation. Xavier Delmont vient, lui, de parler de mobilité, d'accès au logement, surtout de réchauffement climatique et d'agriculture. Selon vous, Julie Van Damme, quels sont les principaux défis transversaux auxquels va devoir faire face le monde rural et comment, surtout, les changements récents liés à la crise pourraient se pérenniser et impacter ces changements, ces défis ?
Mais cette fois, c'est moi qui parle après Xavier, donc je le remercie déjà d'avoir planté le décor méta et général sur effectivement les enjeux climatiques et de la transition énergétique que l'on partage bien évidemment chez Inter-Environnement Wallonie. Ici, peut-être que si je reviens un peu plus dans les campagnes et que je vous repartage un peu à nouveau un ressenti au moment de la crise sanitaire et en plein confinement en milieu rural, c'était ma frustration lorsque je faisais mes courses alimentaires, qui en fait était quasiment notre unique possibilité de sortie, distraction pendant le lockdown après avoir travaillé. Et donc cette frustration de ne plus avoir accès à mes réseaux habituels bio et locaux que bizarrement en fait je retrouvais plus facilement sur mes lieux de travail, en fait, comme Agent Blou avec Agricover, par exemple. Donc, avoir accès à ces coopératives pour m'alimenter et donc ces produits de qualité qui me font plaisir d'acheter. Le comptoir paysan dont je parlais tout à l'heure n'était pas encore ouvert sur Beaurain. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari éleveur laitier et un papa jardinier où je peux me fournir en presque tout. Mais avec la relocalisation à la maison, en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce paradoxe que pour pouvoir s'approvisionner en produits que je qualifie de qualité, quoi, en fait, c'est plus facile en ville qu'en campagne, alors que c'est là que se trouve nos producteurs, quoi. Donc, tout simplement, un premier défi identifié chez IEWE, ce serait donc cet accès, la facilitation de ces accès aux produits alimentaires de qualité bio et locaux en circuit court. Mais alors, des circuits courts qui soient pratiques à la fois pour les producteurs, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un magasin à la ferme. C'est vrai qu'on a cette belle image d'Épinal, de la ferme qui va vous produire légumes, produits laitiers, viande, etc. Pour l'agriculteur, c'est une diversification qui n'est pas toujours possible. Donc, pratique pour le producteur, ça implique pour lui d'avoir des circuits de commercialisation où il peut écouler facilement ses produits, donc comme des plateformes logistiques et ce genre de choses. Et pratique aussi pour les consommateurs, même s'il y a eu cette envie pendant le confinement, il y a quand même besoin de pouvoir faire ses courses où on centralise un maximum de produits. Tout le monde ne peut pas se permettre dans la vie de tous les jours de faire une tournée de 10 endroits différents pour s'alimenter. Donc, ça ce serait une première chose. Alors au niveau des impacts Covid, pour un peu illustrer ça, cette tendance que paysans artisans mettaient en lumière, c'est vrai qu'il y a eu un boom. Je dois dire qu'en avril 2020, on pouvait apparenter les commandes de beurre à une fin d'année, quoi, au niveau de la ferme. Mais cette tendance a quand même bien baissé avec la reprise des habitudes alimentaires. Donc c'est vraiment un enjeu important que ça devienne pratique aussi pour les consommateurs, pour qu'on puisse surfer sur cette tendance et qu'elle s'inscrive dans la durabilité. Alors un deuxième enjeu qui nous est cher aussi, hein, c'est la mobilité douce évidemment. Donc on l'a déjà pas mal entendu. Je vous le disais aussi hein, tout à l'heure, j'aurais pu prendre mon vélo pour rejoindre l'espace de coworking, mais parmi voilà les freins plus pratiques, il y a quand même ce frein aussi que je ne me sens pas encore assez en sécurité pour rouler le long des grandes routes. Et donc Xavier l'a mentionné, les investissements dans les infrastructures sont importants. Il y a des choses qui ont été faites récemment. Hein, la commune a d'ailleurs bénéficié d'un budget pour continuer ces tronçons de Ravel, mais je pense qu'il y a vraiment une pensée plus globale à avoir de se déplacer en vélo pour faire tout ce que Madame Biloué a dit, quoi, travailler, se rendre dans ses loisirs, etc. Et donc ça implique aussi des aménagements dans le centre-ville, et ça, c'est vraiment pas évident. La commune de Beaurain a fait une expérience pour mettre en sens unique sa rue commerçante. Et le test a dû s'arrêter après 2 semaines parce que ça a vraiment été compliqué à la fois pour les commerçants et pour les citoyens de changer leurs habitudes de mobilité alors qu'il y avait une vraie volonté politique. Donc voilà, ça peut-être dans la gouvernance, dans les démarches participatives, implication des citoyens, ce serait des choses à travailler. Et un autre élément sur la mobilité qui est lié à la crise sanitaire, c'est aussi celui de l'accès aux lieux touristiques liés à la nature, donc ces spots nature dont on a beaucoup entendu parler, comme la forêt de Saint-Hubert, les Hautes-Fagnes, etc., dont la fréquentation a vraiment augmenté. Et ça semble quand même aussi être une tendance qui s'inscrit quand même dans la durée, puisque le déconfinement est quand même lent. Et je pense qu'il y a quand même une partie de la population qui a pris goût à redécouvrir son patrimoine rural local. Mais donc il y a toute une réflexion aussi à avoir sur comment accéder à ces lieux au milieu de nulle part, autrement qu'en prenant sa voiture et en se garant un peu n'importe où sur le bord des champs, parce que ce n'est pas des lieux qui étaient prévus pour une telle fréquentation. Donc voilà. Et puis, réguler aussi cette fréquentation. Parce que là aussi, nous, on a eu pas mal de plaintes de personnes qui allaient avec cet attrait pour l'observation de biodiversité remarquable, mais qui ignorent parfois les règles de base à respecter et donc finalement qui peuvent avoir un impact négatif sur cette biodiversité remarquable. Mais là, la différence de ce que je disais tout à l'heure, dans la vision de la nature, là, je pense que ce sont des gens qui viennent pour observer ça, qui sont sensibilisés et donc avec des mesures où on réexplique les règles de base, de tenir son chien en laisse, de ne pas sortir des sentiers, et voire plus si affinité, si on a vraiment un public intéressé. Là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à jouer pour la promotion de notre patrimoine. Voilà. Peut-être un dernier, si je peux encore me permettre. C'est cette préservation de la biodiversité, puisque... Là, on parle beaucoup de biodiversité à côté des champs, mais je voudrais dire aussi que c'est important de soutenir la biodiversité dans les champs, dans les cultures des agriculteurs. Donc ça se fait aussi via le soutien d'un certain modèle agricole, quoi. Et donc, on ne peut pas se dire qu'on va faire un maximum en bordure de champs avec ce genre de choses et continuer à traiter de manière intensive à l'intérieur des champs. Donc là aussi, je pense que les communes rurales ont un rôle à jouer, notamment avec les terres qu'ils ont en propriété. Et donc peut-être en conditionnant l'accès à leurs terres avec des commissions rurales, agricoles, où ils peuvent mettre des critères de durabilité dans les projets que proposeraient les agriculteurs.
Mmh. Ça tombe bien que vous parliez de modèle agricole. On l'a entendu à travers les capsules de Marianne Strehl et de Corinne Biloué, il y a des changements démographiques à l'œuvre en milieu rural qui sont principalement liés à l'arrivée de citadins qui s'installent en campagne depuis quelques décennies déjà, et qui deviennent parfois majoritaires en nombre par rapport au monde paysan. Et cette cohabitation donne de plus en plus lieu à des conflits de voisinage entre les néo-ruraux et le monde agricole, qui est accusé d'émettre trop de bruit, trop d'odeurs, bref, trop de nuisances. En réaction à cela, 3 députés wallons libérales ont déposé en février dernier une proposition de décret pour protéger le patrimoine immatériel rural et les activités agricoles. Alors, en quelques mots, cette proposition comporte 2 volets. D'une part, obliger les communes qui entament l'élaboration d'un plan communal de développement rural à rédiger une charte de la ruralité. Ces chartes, ce sont des textes adoptés dans plusieurs communes déjà et qui couchent sur papier les caractéristiques intrinsèques de la vie à la campagne et qui rappellent les droits et les devoirs des habitants. Donc, il y a d'une part la volonté de systématiser cet outil, disons, pédagogique. Et puis, le deuxième volet de la proposition de décret, c'est de prévoir un axe punitif, soit des sanctions administratives en cas d'incivilité de la part d'habitants vis-à-vis d'agriculteurs. Xavier Delmont, est-ce qu'on en est arrivé au point où un texte de loi va devoir protéger la ruralité ? On comprend qu'il est notamment question de la survie du monde agricole, puisque le nombre d'exploitations est en constante baisse, mais aussi de la place de ce monde agricole dans les territoires ruraux et de la manière dont il s'insère dans le tissu socio-économique et des enjeux, vous l'avez dit, de réchauffement climatique, de biodiversité.
Je ne suis pas convaincu qu'il faille légiférer par rapport à ça. La région dispose de tout un tas de politiques qui permettent de pouvoir à la fois préserver, valoriser les territoires ruraux et permettre à ceux qui vivent sur ces territoires de vivre en harmonie. On a parlé des programmes communaux de développement rural, d'un certain nombre d'outils de développement territoriaux. C'est autant de lieux où effectivement chacun des composantes de la ruralité peut se côtoyer, échanger des visions, des points de vue. Donc voilà. J'ai entendu parler de la charte de la ruralité. C'est une excellente chose. Je pense que c'est un document qui peut être en soi extrêmement utile. Mais celui-ci doit être discuté et débattu de la manière la plus complète et la plus ouverte possible. Or, à ma connaissance, c'est souvent peu le cas, où ça reste confidentiel. C'est pas quelque chose qui est diffusé, c'est pas quelque chose qui est discuté, c'est pas quelque chose qui est débattu et qui après fait sens pour l'ensemble des acteurs d'un territoire rural. Donc pour moi, il y a effectivement des enjeux d'information, de communication. Il y a à créer des lieux de débat, d'échange, et tout ça, c'est notamment la responsabilité du politique. Donc remettre une chape complémentaire en termes de réglementation. On a beaucoup d'outils déjà réglementaires, donc rajouter une couche, ça va être un petit peu compliqué. En termes d'aménagement du territoire, on a des outils qui permettent d'éviter ou de limiter l'artificialisation des sols. Or, pour le moment, le stop béton, c'est simplement un slogan politique. Alors là, évidemment, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est une réalité. Pour le moment, on continue, on en a parlé en début d'émission, on a des lotissements qui se créent sans arrêt en Wallonie. Or, il faut préserver ce patrimoine sol de la manière la plus impérative possible. Donc, alors, peut-être qu'une des pistes par rapport à toutes ces questions-là, c'est ce que d'autres pays font en Europe, c'est non pas rajouter un des éléments complémentaires en termes de législation, de réglementation. Mais c'est analyser sous l'angle de la ruralité tout un tas, justement, de textes de loi. Et c'est dire à chaque fois, quand on légifère de telle ou telle manière, quelle est l'incidence que cette législation a sur les territoires ruraux ? Est-ce positif ? Est-ce négatif ? Y a-t-il des difficultés qu'il faut prévoir ? Et donc, c'est une manière d'utiliser l'outil législatif tel qu'il existe, mais à chaque fois l'analyser sous l'angle et sous la loupe de la ruralité. Et ça permet de pouvoir pouvoir tenir en compte les intérêts de l'ensemble du collectif urbain et ruraux.
Mais dans le contexte actuel de tensions de voisinage, disons, mais également de changement climatique, est-ce que selon vous, le monde agricole est amené à se remettre en question, à évoluer, ou est-ce qu'il doit être protégé tel quel ?
Le secteur agricole est un secteur en évolution. Ça fait les agriculteurs innovent depuis des décennies, depuis des siècles. Sinon, on n'en serait pas là où on en est. Donc, laissons-leur aussi la place et l'intelligence d'évoluer, de faire évoluer leur corporation et leur métier. Mais ils vont devoir le faire en interaction aussi avec les habitants des territoires ruraux. Et donc, c'est de nouveau... Alors, c'est bateau de le dire dans un dialogue, mais je pense qu'il y a aujourd'hui nécessité d'une évolution des pratiques agricoles dans le respect, dans la conservation des ressources, que ce soit la ressource eau, que ce soit la ressource sol. C'est ce qui a été mentionné déjà, mais c'est fondamental parce que c'est un héritage commun. Une fois qu'il aura disparu, ce sera terminé. On ne pourra plus rien faire. Donc, c'est dans ce contexte-là que les choses doivent s'aborder. Et c'est clair qu'on est avec des acteurs qui ont du mal à se parler. On est avec des acteurs qui, de temps en temps, ont des référentiels tellement différents qu'il faut recréer des lieux de dialogue. Mais ce n'est pas pour ça que c'est impossible, au contraire. Il faut simplement trouver et créer les opportunités pour que ce dialogue se recrée.
En termes de perspective à l'horizon pour le monde rural, il y a aussi le fameux plan de relance européen post-Covid. Donc, dans la Wallonie, il touchera dans ce cadre 1,4 milliard d'euros de l'Union européenne. Son plan de relance comporte 20 axes, dont seulement 2 font directement référence à la ruralité, alors que, rappelons-le, un Wallon sur 2 vit en milieu rural. Cela n'a pas manqué de soulever des inquiétudes au sein des communes rurales. On écoute Corinne Biloué sur le sujet, avant de passer la parole à nos invités.
Alors, par rapport au plan de relance, le plan de relance, on a pour l'instant les grands titres. Hein. On n'a pas encore tous les chiffres et tous les détails des mesures prévues dans le plan de relance. Mais néanmoins, on peut déjà remarquer qu'il y a certaines mesures annoncées qui vont avoir un impact à la fois sur les territoires urbains comme sur les territoires ruraux. Et surtout, nous, on est complémentaires, on ne fait pas ce clivage opposition urbain-ruraux. Et donc, il y a vraiment des mesures annoncées, que ce soit la formation, la rénovation du bâti, le tourisme, la souveraineté alimentaire, les circuits courts, etc. Tout ça sont des projets qui vont être ouverts aux territoires ruraux comme aux territoires urbains. Maintenant, il faudra voir quels sont les critères qui vont être déclinés par rapport à ces appels à projets pour que ce soit réellement accessible aussi aux ruraux. Ça, il faudra faire attention. Parfois, il faut un minimum de nombre d'habitants et donc ça peut avoir un impact. Donc, ça, c'est déjà un premier point positif. Et puis, il y a aussi la confirmation de certaines mesures, en tout cas projets annoncés, qui sont plus spécifiquement dédicacés aux territoires ruraux. Mais on entend le soutien des investissements dans les pouvoirs locaux, dont les communes rurales. Donc, on a bien précisé les communes rurales. Le déploiement aussi de pôles de services de proximité, hein, je vous disais, les mesures, c'est important en zone rurale. On a également aussi des moyens spécifiques pour tout ce qui est création d'espaces de coworking complémentaires en milieu rural. Donc, on cite vraiment le milieu rural pour tous ces points-là. Et nous, évidemment, on a été très, très heureux, la Fondation Rurale Wallonie, de voir qu'il y avait un budget complémentaire au budget habituel de la région wallonne pour amplifier les programmes communaux de développement rural. Donc, parce que ça, l'accompagnement des programmes communaux de développement rural des communes est vraiment au cœur du métier de la FROE. Et donc, on est très heureux de voir que cette politique qui se base sur la participation citoyenne et la mise en œuvre de projets concrets adaptés aux réalités locales des territoires ruraux a été repris dans le plan de relance. Et je pense que ça a été une volonté de Madame la Ministrière qui a donc la ruralité et l'accompagnement des programmes communaux de développement rural, de marquer qu'il faut d'amplifier aussi cet outil. C'est donc une belle reconnaissance que cet outil a un impact positif sur le milieu rural.
Alors, ce fameux plan de relance, Julie Van Damme, est-ce que la ruralité a bel et bien été oubliée, comme l'affirment certains bourgmestres, par la Wallonie ? Ou est-ce que l'argument de la transversalité des mesures qui est mis en avant par le gouvernement wallon tient la route ?
Mais alors, d'abord, je ne voudrais pas rentrer dans cette dualité ville-campagne, parce que je trouve qu'en Wallonie, c'est quand même un peu dommage et ridicule, vu la grandeur de notre territoire, de les opposer, oui, par rapport à la France, par exemple, où je parlais tantôt peut-être de cette tendance de certains villages fantômes en Wallonie. En France, on a réellement des vrais villages fantômes qui se vident et on voit personne sur des kilomètres. Pas plus tard que ce midi, un ami me racontait une anecdote. Il revenait de Montpellier en train, il voyait des prairies et il se disait j'aimerais bien prendre une photo de vache. Il a fait 10 minutes de train sans voir une vache parce que les agriculteurs aussi quittent les campagnes en France. Donc voilà, je trouve que chez nous, c'est quand même un peu dommage. Et juste à ce propos, si ça vous passionne, le sujet de la ruralité et de ces mouvances sociologiques en France, je vous recommande un super bouquin qui s'appelle « Ceux qui restent » du sociologue Benoît Coquart, et aussi une super série podcast qui travaille sur ce rapprochement justement entre agriculteurs et citoyens, qui est le journal breton d'Inès Leroux. Mais donc, pour en revenir à votre question, notre analyse chez Inter Environnement Wallonie de ces plans de relance est quand même positif sur certains aspects, sur les aspects transversaux, effectivement, parce qu'il y a finalement pour la ruralité pas mal d'investissements plutôt dans le vivre ensemble. Et donc, dans la rénovation énergétique quoi, de bâtiments existants, et notamment des bâtiments de service, hein, les écoles, les halls de sport, plutôt que la construction de nouveaux zonings industriels. Donc ça, on trouve que c'est quand même très positif. Ça va dans cette logique de ce qu'on appelle les centralités, donc plutôt travailler dans la redynamisation des centres en milieu ruraux et pas la suburbanisation que Xavier Delmont évoquait tout à l'heure. Donc bon, c'est vrai que pour les campagnes rurales où il n'y a pas de centre, je peux comprendre alors qu'il y ait des frustrations. Alors, autre chose, je pense que c'est important que pour certains postes, comme ceux-là, justement, la rénovation énergétique, qu'il y ait des gros budgets, parce que c'est clairement des gouffres financiers. Donc voilà, on a quand même besoin de grosses enveloppes à ce niveau-là. C'est le cas dans les plans de relance. On peut raisonnablement espérer que tout ça va bénéficier quand même au monde rural, puisqu'il y a plein de bâtis qui n'attendent qu'à être rénovés en zone rurale, qui sont pleins de cachets et qui abritent un patrimoine indéniable. Donc voilà, c'est vrai que le jeu va peut-être être un peu compliqué à jouer pour les communes si on parle d'appel à projet. Mais donc là, tout n'est pas encore joué dans les plans de relance. Donc il y a encore une fenêtre d'opportunité à jouer ici pour que justement ces critères soient aussi accessibles à des plus petites structures. Et à l'autre, un autre point qui fait partie des 10% de budget que vous avez mentionné, c'est cette axe dont je parlais un peu tout à l'heure aussi, qui est la relocalisation de l'alimentation et le développement de plateformes logistiques. Donc là, par contre, on est dans une autre logique, même s'il n'y a que peut-être 10% de budget. Il n'y a pas forcément besoin là, de gros budgets. Justement, on est plutôt dans une logique de mettre un petit peu d'argent, comme de l'huile dans les rouages, là où il le faut vraiment. Ça peut être positif, quoi. Donc ici, on parlait de plateforme logistique. Il n'y a pas besoin de multiplier les outils. Je pense qu'un grand hall au niveau du territoire, bien pensé, professionnel, pourrait tout à fait être intéressant. Et donc, pour ça, on n'a pas besoin non plus d'énormes quantités de budget. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la mobilité et des services, ça reste effectivement décentralisé dans les campagnes. Hein. Je pense à la santé et ça reste un grand défi. J'avoue qu'en tant que jeune maman isolée dans ma campagne, parfois, j'ai un peu peur d'être éloignée d'un hôpital. Et pas plus tard que ce matin, j'entendais aussi que des budgets prévus déjà dans des budgets actuels de plan wallon de développement rural pour les maisons médicales en milieu rural étaient sous-utilisés parce que les acteurs ont du mal à répondre à des marchés publics. Donc voilà, c'est un constat réel. Mmh.
En effet, donc un des principaux modes de distribution des fonds du plan de relance pourrait vraisemblablement être l'appel à projet. Xavier Delmont, c'est une procédure qui peut s'avérer très lourde à porter, on l'a dit, pour les petites communes, surtout, qui ont moins de ressources. Comment s'assurer que le monde rural, dans son ensemble et dans toute sa diversité, perçoive les fruits de ce plan de relance ?
D'abord, je vais faire une petite incise par rapport à la logique d'appel à projet. Mmh. Je pense que les appels à projet, c'est une très bonne chose pour tester un certain nombre d'hypothèses. Mais à un moment, ça doit être utilisé pour pouvoir faire de vraies politiques structurelles. Donc, il y a là un enjeu d'utiliser ces expériences. Alors maintenant... Comment au mieux, et justement pour les petites communes rurales, parce qu'il faut savoir que les équipes des communes rurales ne sont pas dithyrambiques, il n'y a pas énormément de fonctionnaires et qui gèrent des matières extrêmement complexes. Donc c'est s'appuyer sur toutes les structures, qui notamment les structures transcommunales qui existent aujourd'hui en Wallonie, que ce soit les parcs naturels, mais surtout et avant tout les groupes d'action locale, qui ont des équipes transversales avec des chargés de mission dans différents domaines, qui peuvent être au service des territoires, des communes qui font partie de leur territoire et qui sont quelque part font de l'ingénierie technique au sens du terme, mais tout en ayant une vision transversale du développement de leur territoire. Donc c'est une piste intéressante. Donc c'est comment soulager les communes qui souvent sont trop petites seules et mutualiser les ressources à un niveau transcommunal, donc 5, 6, 7 communes qui peuvent alors en plus d'une manière cohérente mettre en place des politiques en termes énergétiques, des politiques en termes de mobilité, en termes de rénovation de bâtiments, etc. Donc relever l'ensemble des défis dont on a parlé maintenant. Mais il faut pour ça, avoir une échelle qui soit cohérente et qui soit suffisante en termes de ressources humaines. Sinon, on est un peu démunis par rapport à la complexité des matières dans lesquelles vont se mettre en œuvre les axes du plan de relance. C'est une des propositions, je pense, à faire.
Face à l'état des lieux actuel, en deux mots, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à ce plan de relance ?
Mais j'attends un peu de voir. Je pense que je vais jouer la prudence. Mais effectivement, la transversalité. J'ai parlé tout à l'heure du mécanisme de rural proofing. Je pense que toutes les mesures qui vont être prises dans le cadre du plan de relance doivent être analysées à la loupe aussi des intérêts des territoires ruraux. Et c'est seulement si on a ce mécanisme mis en place que l'on pourra être certain qu'il n'y a pas de déséquilibre dans l'allocation des ressources. Pour moi, c'est un élément fondamental. Reste que maintenant, les mécaniques wallonnes et européennes, en général, se préoccupent, bien entendu, de ces équilibres-là. Mais reste qu'il y a une vigilance importante. Et de nouveau, moi, je vais insister sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, les ressources, les forces vives des territoires, notamment ruraux, sont là, sont présentes, mais il faut qu'il y ait des climats de confiance qui s'installent. Les citoyens sont capables aussi de prendre leur part des réflexions.
On approche la fin de ce débat. Je vous propose à chacun de le clôturer avec un mot ou une phrase qui résume, selon vous, la teneur de la discussion d'aujourd'hui et la ruralité de demain. Xavier Delmont, je vous laisse enchaîner.
Merci. je pense qu'il faut être constant dans l'effort. Effectivement, on a parlé d'un certain nombre d'évolutions dans les comportements, d'évolutions dans les systèmes qui sont en train de se mettre en place. Il faut de la constance de la part de l'ensemble des acteurs. J'invite les consommateurs à chaque fois s'interroger sur leur acte de consommation. S'ils ne le font pas, s'ils retombent dans les travers, alors effectivement, je pense qu'on va vers de très graves difficultés. En termes de mobilité, s'interroger comme Julie, de savoir si je vais prendre mon vélo ou je vais prendre ma voiture ou est-ce que je vais changer de modèle de voiture. Donc c'est des comportements individuels. On est dans un contexte où effectivement le politique peut nous aider, mais on est aussi à une responsabilité individuelle qu'il faut prendre à bras-le-corps et qu'il faut assumer.
Julie Van Damme, le mot de la fin.
Alors, je vais dire pensée globale. Donc, n'oublions pas qu'on est un petit territoire. Et donc, par exemple, encore une fois, sur cette plateforme logistique, un centre logistique professionnel qui dispatche très bien. Voilà, c'est un exemple de pensée globale à l'échelle de la Wallonie. Et puis, pensée territoire, il y a les découpages des communes. Mais Xavier l'a souligné, avec les GAL, il y a aussi des dynamiques territoriales qui se dessinent et qui sont là, au-delà des frontières communales et du territoire. Et donc, pensée territoire plutôt que frontières et dépasser ces frontières.
Merci beaucoup à tous les deux, Julie Van Damme et Xavier Delmont, pour votre présence. On remercie également Corinne Bilouet, directrice de la Fondation Rurale de Wallonie, et Marianne Strel, présidente de la FOI, pour leur contribution à distance au travers des capsules sonores. Vous retrouverez ces personnes dans le dernier numéro d'Alter Echo et son dossier consacré à la ruralité. Merci à Mundoen de nous avoir accueillis dans leurs locaux en territoire wallon. Merci à Flavien Gillier de Bruxelles nous appartient pour la technique et à Marie-Ève Merckx de l'agence Alter. Merci aux auditrices et aux auditeurs de Radio Panique de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver ce débat sur le SoundCloud et le Spotify d'Alter Echo et le réécouter sur les ondes de Radio Campus ce samedi à 18h. Bonne fin d'après-midi à toutes et tous.
Covid-19. Que sont nos campagnes devenues ? Un débat proposé par l'agence Alter et Bruxelles nous appartient.